La plume.
La plume.
La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde
de la faune sauvage Cosona.
Chaque deuxième mardi du mois à 18h,
nous vous présenterons les activités et la vie de l'association. La plume. La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage Cosona. Bonjour et bienvenue dans l'émission du Centre de sauvegarde de la faune sauvage Cosona, La plume. Aujourd'hui, on va vous parler de notre été, tout simplement, puisque la dernière fois que nous étions quittés, c'était en juin, où nous vous présentions une émission sur l'Aigle Royal. Donc aujourd'hui, c'est notre été pour que vous puissiez nous rattraper un petit peu. Au mois de juin, le CRSFSC partait au boulot quand tout le monde partait en vacances. En effet, l'été est chargé dans les centres de sauvegarde. C'est à cette période que nous recevons le plus d'animaux. La raison principale, en général, c'est le ramassage des jeunes. Pour ce qui concerne les oiseaux, la plupart tombent des nids un petit peu avant de savoir voler. Donc, effectivement, la plupart du temps, les gens, pensant bien faire, les ramassent, les gardent un moment et après nous contactent et les amènent au centre de sauvegarde. Évidemment, la plupart du temps, c'est un petit peu trop tard pour eux pour être replacés, alors que c'est ce qui devrait être fait dès le départ. Donc, 8 fois sur 10, il vous suffit tout simplement de les replacer dans les nids, parce que les parents sont toujours à côté et s'en occupent encore. Nous avons d'autres cas aussi d'accueil, tout simplement parce que pendant les vacances, les gens ne travaillent pas forcément ou se baladent un peu plus, donc les habitants et les touristes trouvent beaucoup plus d'animaux. Donc tous ces animaux vont avoir des causes d'accueil différentes, donc les chocs routiers, les chocs avec les vitres, l'électrisation, les pièges. Et très souvent, avec l'été et les mouches, ils se prennent dans les colmouches. Alors, tout simplement, nous allons commencer par parler du bilan, avec des chiffres.
Alors du coup, les animaux qui ont été le plus reçus cet été, c'est toujours les martinets en première place. Donc cette année, on en a reçu 56. Alors les martinets, en fait, ils nichent sous les toitures. Et quand les étés sont un peu trop chauds, comme ça a été cet été, les jeunes sautent des nids pour respirer un peu. Et donc ils sont récupérés au sol, souvent dans la rue. Ça demande pas mal de travail dans les centres de sauvegarde. C'est des nourrissages toutes les heures, toute la journée. Donc on a été bien occupés avec les martinets. Ensuite, on a eu pas mal de chouettes chevêches. On en reçoit de plus en plus. Là, chaque été, c'est de plus en plus. Donc cette année, on en a eu 36, quasiment que des jeunes, qui ont été relâchés au taquet dans différentes fermes autour de Millau. Et donc, il y a des stagiaires qui ont fait les suivis un petit peu de ces chouettes. Et je suis mal placée pour parler des résultats parce que je n'ai pas participé... au suivi de ces chouettes. Voilà, par rapport aux chouettes, on a, je le rappelle, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais on a un projet sur l'ILO. L'ILO, c'est un moteur de recherche qui finance des associations. Et donc, on a un projet sur les chouettes qui s'appelle Chouettes mais pas abandonnées. Donc, si vous voulez aller sur l'ILO et nous soutenir, ça serait super. Ensuite, on reçoit aussi beaucoup de faucons cresserelles l'été. Donc, on en a eu 25 cette année. Et les vautours fauves, ça, c'est entre mi-août et mi-septembre. On reçoit entre 5 et 10 jeunes vautours fauves en général. En fait, c'est quand ils prennent leur premier envol, ça arrive qu'ils se loupent. En fait, ils ont des techniques de vol un petit peu compliquées puisqu'ils utilisent des thermiques pour prendre de l'altitude. Et donc, ça arrive régulièrement qu'il y ait des jeunes qui arrivent en fond de vallée, qui n'arrivent pas à redécoller. Donc, en fait, nous, on les récupère. En général, ils sont simplement affaiblis. Et donc, on les nourrit et on les fait repartir des hauteurs. Du coup, cette année, entre le 1er juin et le 31 août, on a reçu 360 oiseaux et mammifères. Donc, le nombre maximum d'accueil qu'on a eu en une journée, c'était jusqu'à 16 animaux. Et alors, l'été, il n'y a pas que les accueils des animaux qui sont importants, mais il y a aussi les appels téléphoniques qui sont incessants. On a eu des journées jusqu'à 30 ou 35 appels par jour pour des conseils ou des, enfin voilà, on fait replacer en fait beaucoup de jeunes, comme le disait Cassandra juste avant. Et donc par rapport à l'année dernière où on avait reçu sur toute l'année 396 animaux, là on les a dépassés depuis le 21 août. Voilà pour le bilan de l'été.
Nous avons reçu cette année de nombreux animaux un petit peu particuliers. C'est vrai que même si depuis 30 ans, on a vu passer un petit peu toutes les espèces, ou presque, de la faune européenne au centre, on a encore quelques surprises intéressantes. Alors la première, c'est une petite loutre, un loutron, on appelle ça. Et alors en fait, c'est extraordinaire parce que la loutre a recolonisé pratiquement tous les cours d'eau du département de l'Aveyron, de la Lozère. C'est une espèce qui avait pratiquement disparu, mais qui actuellement est revenue. C'est pas parce qu'il y a une surpopulation de poissons, je rassure les pêcheurs. En fait, si elle est omniprésente, c'est parce que une autre espèce qui est une espèce invasive a colonisé les ruisseaux et les rivières, c'est l'écrevisse. Et la loutre se nourrit essentiellement d'écrevisses dans la région. Donc ce loutron, il a été récupéré à Saint-Enémy, tout petit, hein, il faisait 500-600 grammes. Et puis en fait, nous l'avons gardé, nous l'avons toujours pour le moment. Je tiens d'ailleurs à remercier Hélène et Cassandra qui s'en sont occupées avec un amour très maternel, puisqu'il a fallu que dans un premier temps, elle la nourrisse au biberon. Eh oui, au biberon. Et donc, en fait, elle est maintenant en pleine santé et va partir dans un centre qui est mieux équipé que nous pour effectuer sa rééducation, avec en particulier un petit étang et un ruisseau. Quelques animaux particuliers aussi. On a reçu beaucoup de petits passereaux cette année. Donc, on a reçu une nichée de 5 mésanges bleus. Hein. Mésanges bleus, c'est la plus petite des mésanges qui est souvent près des habitations. Et alors, on a eu de la chance parce qu'on avait au centre nichoir où il y avait déjà 3 mésanges bleus, des petites, du même âge. Ben, on les a tout simplement, ces 5 mésanges, confiés à la mère qui élevait déjà les trois autres jeunes. Elle les a adoptés et donc ça s'est très très bien passé. Pareil pour des mésanges charbonnières. Mésanges charbonnières, souvent nichent aussi près des habitations, parfois dans les boîtes aux lettres. Et là aussi, ben, elle a été installée dans un nichoir avec d'autres petites mésanges charbonnières, et puis ce sont elles qui ont fini le travail. Là, c'est vraiment intéressant parce que c'est là que les animaux ont finalement le plus de chances de pouvoir retourner à la nature naturellement.
Alors, nous avons aussi accueilli, toujours dans les petits oiseaux, une nichée de 6 citelles torchepeaux. Donc, c'est un oiseau qu'on peut reconnaître facilement dans les jardins parce qu'il a très souvent la tête en bas. Malheureusement, bah, comme dans toutes les nichées de jeunes tout court, quel que soit l'oiseau, il y a souvent un qui est plus faible que les autres. C'est normal, ça arrive. Donc on a quand même une citelle qui est morte. Mais on a réussi à faire survivre les 5 autres qui ont pu être relâchés par système de taquet aussi. Ce qui est à féliciter, c'est la dame qui les a découverts. Qui avait entendu tout simplement ces citelles hurler, pour ainsi dire, dans l'arbre, et qui a quand même surveillé pour voir si la mère revenait, si elle ne revenait pas. Au bout de 2 ou 3 heures, si je me souviens bien, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus personne qui revenait. Donc finalement, elle a récupéré les citelles qui ont pu être sauvées. Nous avons eu, effectivement, toujours dans les animaux particuliers, pour la première fois au centre, un pouillot véloce. Donc je laisse aux curieux l'occasion d'aller découvrir cette espèce dans les bouquins ou sur Internet, sur les sites spécialisés. Dans les premiers arrivages aussi, nous avons reçu un murin à moustache, qui est une espèce particulière de chauve-souris, qui est quand même assez petite, qui niche pas mal sous les ponts, dans les milieux plutôt aquatiques, on va dire. Donc, qui est arrivé avec un poids très léger de 2,1 grammes. Donc, il a été élevé à la pipette et au lait maternisé. Ensuite, nous avons reçu, qui est un accueil rare aussi, c'était pas le premier, mais c'est un accueil rare, un Milan Royal. Donc, c'est un rapace que vous pouvez observer très facilement, en tout cas en Aveyron, au-dessus des champs, qui tournent souvent en rond et pas mal à plusieurs quand même. Donc, il a été juste un petit peu stressé, un petit peu choqué. Donc, il n'avait pas de blessure, pas de fracture. Il a pu être relâché sur son lieu de découverte, ce qui est quand même très important pour les Milans royaux.
Alors, tout à l'heure, je vous parlais des accueils des jeunes vautours fauves. Alors, cette année, pendant l'été, on a reçu un vautour fauve, mais celui-là était âgé de 30 ans. Alors, en fait, bon, on le sait parce qu'il avait été bagué par la LPO. En 1988. Donc, malheureusement, il n'a pas survécu et on pense en fait qu'il a tout simplement souffert de la canicule de cet été. Après, on a eu aussi des petits mammifères, donc plusieurs lairots et loirs qu'on a élevés aussi, comme le murin à la pipette et au lait maternisé, et qu'on accueille rarement. On a eu 2 faucons obéraux cette année, donc c'est quand même assez particulier.
Toujours dans les espèces un petit peu spécifiques, on va dire, mais on a reçu aussi une poule d'eau. Alors des poules d'eau, c'est relativement rare sur la région, mais il y en a aussi quelques-unes dans des petites roseraies ou dans les endroits un petit peu humides au bord des rivières. C'était une poule d'eau juvénile qui a pu être relâchée. Dans les rapaces, alors là un petit peu extraordinaire, nous avons fait récemment une émission ici sur l'aigle royal. Mais nous avons malheureusement accueilli un aigle royal qui est toujours présent au centre. Alors cet aigle royal, en fait, c'est un individu qui est un adulte. Hein, il a été récupéré dans la région de Brusque, donc un petit peu plus au sud d'ici. Qu'est-ce qu'il a eu exactement? C'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été retrouvé à environ 1 km d'un parc éolien important. Alors on ne peut pas certifier bien sûr qu'il a eu des problèmes avec ce parc éolien, mais ce dont on est certain, puisque nous avons effectué des radios, c'est qu'il lui manque sur une aile, le bout de l'aile, c'est-à-dire l'équivalent de la main chez un être humain, et que donc malheureusement il ne pourra pas repartir dans la nature. Parmi les animaux que nous avons accueillis aussi, donc un petit animal que tout le monde connaît de nom, mais qu'on voit rarement, c'est la belette. Alors la belette, il faut savoir, c'est un petit carnivore qui en fait 15 cm de long et qui pèse moins de 100 grammes. Hein. C'est pas ce genre de bestiole qui va s'attaquer avec des proies très 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 grosses. Son régime alimentaire en général, c'est plutôt les petits rongeurs, les campagnols. Des nouvelles enfin d'un individu que nous avons gardé pendant tout l'hiver chez nous, c'était un vautour pernoptère, hein, le plus petit des vautours, qui est un rapace qui migre en hiver en Afrique. Ben, nous l'avons relâché en compagnie de la LPO Grand Cos au printemps, c'est-à-dire au mois de mars-avril. Il a été équipé d'une balise, ça nous permet de le suivre. Ben, il faut savoir qu'il est resté sur la région, en fait. Et c'est un individu qui actuellement est encore présent dans le secteur de Millau, il se déplace, donc il arrive à vivre, ça c'est la bonne nouvelle, parce que lorsqu'on accueille un animal à un centre de sauvegarde pendant 5-6 mois, on peut se poser des questions sur son devenir, surtout si c'est un jeune. Bon, ben actuellement il est toujours dans les airs, on espère qu'il va partir en Afrique, et puis on verra bien pour la suite. Un petit mot peut-être sur les chouettes chevêches, on en a parlé tout à l'heure, mais il faut savoir que ce petit rapace nocturne est le plus petit des rapaces sédentaires qu'on a sur la région. On la croyait disparue, et puis en fait, on s'aperçoit, grâce aux études qu'on réalise actuellement, qu'il y en a beaucoup, notamment autour de la région, dans la région autour de Millau, en particulier dans les fermes, voire les villages. Et je crois qu'un jour, il faudra qu'on en parle un petit peu plus longuement.
I don't know.
Alors maintenant, nous allons vous parler tout simplement on va appeler ça des points noirs de notre été, qui sont finalement des points noirs qu'on retrouve quasiment toute l'année, chaque année, et donc on pense que c'est pas mal d'en parler. Donc ce gros point noir, ça va être tout simplement que la plupart du temps, lorsque les gens trouvent un animal sauvage peut-être en difficulté dans la nature, le premier réflexe, ça va être de le prendre, de l'amener chez soi pour essayer de le soigner soi-même. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal de problèmes qui se posent avec cette solution-là. En premier, ça va être tout simplement, dans le cas des jeunes, l'imprégnation, qui du coup arrive à compromettre quand même pas mal le relâcher dans la nature. Je vous explique pourquoi. C'est que quand on récupère un animal, un jeune, et qu'on le nourrit soi-même, on a finalement tendance à trop lui parler parce que tout simplement il est mignon, ça communique pas mal puisque ça nous demande de la nourriture. Ce genre de choses. Donc le problème qui se pose, c'est que lorsque l'animal grandit, il ne s'identifie pas du tout à son espèce. Donc une fois à l'âge adulte, il est plus à même de rejeter les siens et peut même devenir violent envers l'humain qu'il a élevé, puisque ce qui va se passer, c'est que souvent en période de reproduction, l'individu qui s'identifie à l'humain veut défendre absolument son territoire. Donc il va défendre son territoire de ses concurrents, ce qui va être donc des autres humains. On donne aussi l'exemple tout simplement du chevreuil, c'est que non seulement il va essayer de défendre son territoire des autres humains, mais en plus des autres chevreuils aussi. Donc finalement ça va être un individu plutôt solitaire, qui va être difficile à gérer. Ensuite, lorsqu'il s'agit sûrement d'un petit oiseau ou d'un petit mammifère, son plus gros problème, c'est que ça va être une proie très très facile pour les prédateurs. Dans ce sens qu'il va attendre à manger de la personne qu'il a entre guillemets élevée. Donc il va plutôt se rapprocher des habitations, ce genre de choses, et finalement il va devenir une proie super facile, par exemple pour tout simplement le cas classique, les chats. Voilà.
Donc le deuxième gros problème de nourrir un animal chez soi, c'est l'alimentation qui n'est pas adaptée. Alors beaucoup de gens, en trouvant un jeune oiseau ou mammifère d'ailleurs, vont chercher des informations sur Internet, et il faut savoir que Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises sur Internet. Alors, nous, on voit le cas tout le temps. Hein. La plupart des gens qui amènent des oiseaux au centre, l'information qu'ils ont trouvée, c'est que il fallait donner du pain trempé dans du lait. Par définition, les oiseaux ne boivent pas de lait. Ça, voilà. Du coup, bah, dans ce genre de cas, en fait, soit l'animal meurt chez le particulier, ou alors ça arrive que, en fait, les gens nous appellent au moment où l'animal ne va plus bien, en fait. Pendant les premiers jours, ça va, ils s'en occupent. Et puis, quand il commence à plus tenir debout, à plus réclamer à manger, on nous appelle. Et puis, du coup, bah, nous, on reçoit des oiseaux à moitié morts ou qui meurent quelques heures après. Donc, voilà, par rapport aux rapaces, souvent, on reçoit des oiseaux qui ont des grosses carences en calcium. Donc, en fait, au début, le poussin va bien. Et puis, en grandissant, en fait, les os, au lieu de se solidifier, ils deviennent mous. Donc, à partir de là, l'oiseau ne tient plus debout. Il commence à pencher, à plus réussir à se tenir droit. Donc là, on les reçoit au centre. Et en fait, même en leur administrant une alimentation adaptée, en leur donnant des souris, des poussins, les os se solidifient, mais pas dans la bonne forme. Du coup, ils se sont déformés et puis c'est trop tard. Et donc, tous ces individus qui ont eu des carences sont malheureusement condamnés. Nous, on peut pas. Enfin, on n'est pas magicien.
Oui, alors, par rapport à ce qu'on vient de dire, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, les animaux d'espèces protégées ne peuvent pas, en principe, être détenus par les particuliers. Les seuls cas qui sont tolérés par la loi, c'est lorsque cet animal est acheminé chez nous. Donc, ce qu'il faut effectivement, c'est le récupérer si on pense qu'il est vraiment en danger. Nous contacter, à ce moment-là, on donnera éventuellement les conseils nécessaires pour son maintien ou pour son acheminement vers un centre de sauvegarde. Puisque nous sommes, nous aussi, soumis à une législation qui est très stricte hein, pour détenir ces animaux, pour pouvoir les transporter. Nous sommes contrôlés régulièrement, nous avons des registres d'entrée, des registres de sortie. Donc c'est très, très contraignant et il faut effectivement bien respecter la loi, à la fois parce que ça permet d'éviter les trafics, d'éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi avec les animaux sauvages, mais aussi parce qu'il faut faire les choses, on va dire, le mieux possible.
Pour revenir du coup aux jeunes individus élevés par l'homme, en plus du problème donc, dont a parlé Cassandra d'imprégnation et de ce dont j'ai parlé là, des carences alimentaires, en fait, il y a les méthodes de relâcher qui sont importantes. En fait. Même un jeune oiseau qui a été bien élevé, qui n'est pas imprégné, qui a reçu une alimentation adaptée, peut ne pas s'en sortir après son relâché si la méthode n'est pas bien choisie. Pour pouvoir relâcher un jeune, que ce soit un jeune rapace ou un jeune passereau ou même un jeune mammifère, il faut connaître les techniques de relâcher adaptées à chaque espèce et connaître la biologie des espèces, leur milieu. Et encore une fois, sur Internet, on ne trouve pas toujours les bonnes informations. Alors, pour relâcher des animaux au taquet, donc c'est la méthode qu'on utilise pour la plupart des jeunes animaux, il faut faire des autorisations préalables. Donc, un an à l'avance, il faut prévenir de quels individus vont être relâchés, à quels endroits. Donc, il y a encore une réglementation importante là-dessus, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où.
Voilà, donc si des fois il y a des gens qui sont plutôt intéressés pour relâcher des animaux chez eux, à ce moment-là, nous on essaie de voir déjà si le milieu est favorable, déjà pour cette espèce-là, quelle qu'elle soit. Et ensuite, effectivement, nous on doit toujours déclarer ça au préalable. Mais effectivement, un an à l'avance. Donc, c'est très compliqué et c'est pas mal de travail. Pour finir, c'est vrai qu'il y a deux petits points qu'il faut préciser aussi. C'est que quand on garde les animaux en captivité, de toute façon, il y a aussi des risques, non seulement pour l'animal, mais aussi pour l'humain. À savoir que c'est pas forcément parce que Un animal a la réputation de porter des maladies ou des parasites qu'il est forcément le seul. Par exemple, bon, je donnerai un exemple banal, c'est que quand les gens nous appellent pour nous dire on a une chauve-souris, ils nous disent, bah tiens, est-ce que je vais attraper la rage parce que je vais me faire mordre ou quoi que ce soit. Donc, il faut savoir que, bon, en tout cas, dans le cas de la chauve-souris, il n'y a jamais eu de cas de rage en France, pour l'instant. Donc, il ne faut pas non plus y aller comme ça. Mais il y a d'autres, animaux qui peuvent porter des maladies, tout simplement. Je donnerai l'exemple que bah, pour ceux qui, les gens qui sont propriétaires d'un chat, bah, votre chat, il veut vous le caresser, vous le laissez de temps en temps vous griffer, mais lui aussi, il est porteur de maladies et peut vous en transmettre. Donc, tous les animaux sont porteurs d'un parasite quelconque, tout simplement parce que notre système immunitaire n'est pas le même d'un animal à l'autre, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que finalement on a à dire pour la captivité qui n'est pas forcément autorisée.
Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris émet un parapluie, émet un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit de balancier, un vendeur de cravates le prit comme associé. Il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris émet un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise. Mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau, avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris émet un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris émet un parapluie. Une chauve-souris émet un parapluie. Une chauve-souris émet un parapluie.
Alors maintenant, nous allons vous parler d'une journée qui a été particulièrement importante pour nous au centre. Donc comme beaucoup doivent le savoir maintenant, parce que c'est vrai qu'on envoie pas mal de mails, on en parle pas mal sur notre page Facebook, on partage l'information, on essaye depuis un peu plus d'un an et demi maintenant d'obtenir des financements pour créer un poste et demi de salariés afin de pérenniser l'action du centre. Donc cette journée importante s'est déroulée le 13 juin. Où nous avons invité les élus à venir découvrir un petit peu notre travail. Donc finalement, ceux qui ont été invités sont notamment le président, Monsieur Galliard du Conseil départemental de l'Aveyron, et Monsieur Bernier, le sous-préfet de Millau. Donc ce jour-là, les invités sont tous arrivés entre 15h et 15h30, où ils ont un petit peu pu découvrir les lieux, voir un petit peu qui était là, les bénévoles qui étaient présents. Nous avions des stagiaires aussi ce jour-là. Ensuite, à partir de 15h30, ils ont pu visiter le centre, chaleureusement présenté du coup par Jean-Claude. Donc ils ont finalement vu nos volières, nos boxes d'accueil et aussi pas mal d'animaux que nous avions en soin à ce moment-là. Donc parmi eux, il y avait, si je me souviens bien, deux vautours fauves, nous avions un vautour moine, un hibou grand-duc, un hibou moyen-duc, des buses variables, faucon cresserelle, chouette hulotte, et nous avions aussi, qui est quand même rare, les citelles torchepeaux dont nous avions parlé avant.
Donc la suite du déroulement de cet après-midi, à 4h15, Jean-Claude, donc, qui est le président du centre, il a tenu un discours à l'attention des élus, des invités qui étaient là et des bénévoles. Donc il a profité de ce discours pour remercier les aides financières apportées en 2017, donc plus particulièrement le conseil départemental de l'Aveyron et la mairie de Millau. Donc pour les élus qui étaient présents ce jour-là, on peut citer le président du conseil départemental de l'Aveyron, le président du parc naturel régional des Grands Causses, monsieur le premier adjoint de la mairie de Millau, madame la première adjointe de la mairie de Saint-Victor et Melvieux, le maire d'Aguessac, le représentant du parc national des Cévennes et le sous-préfet de Millau. Il y avait aussi ce jour-là... la presse qui était là, je vais au moins mentionner en tout cas le journal de Millau qui a publié un article le 14 juin et le Midi Libre le 21 juin. Il y avait aussi bien sûr Radio Saint-Afrique qui était présent.
Alors effectivement, moi je suis particulièrement content de cette journée parce que je dois dire qu'en une trentaine d'années d'activité, c'est la première fois qu'on a réussi à rassembler, on va dire, un panel d'élus aussi important. Et puis, ils savaient pourquoi ils étaient là, puisqu'en fait, notre principale motivation, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est de pérenniser l'avenir de cette structure, puisque j'espère que lorsqu'un jour je ne serai plus là, elle pourra continuer son œuvre, qui est une œuvre en faveur de notre patrimoine naturel. Alors, il faut savoir que ces élus, ils ont eu l'occasion aussi de s'exprimer. Alors tous, bien sûr, ont salué le travail réalisé au sein de la structure. Je dirais que ce n'est pas nouveau. Chaque fois qu'on va voir des élus et qu'on les sollicite, ils nous félicitent toujours pour notre action. En général, ils nous disent qu'il faut continuer, et puis ça s'arrête là. Donc le but, c'était effectivement que les choses aillent un petit peu plus loin. Et de ce côté-là, je crois qu'on a obtenu non seulement quelques avancées, mais aussi des paroles qui sont des paroles qu'on n'hésitera pas éventuellement à rappeler. Pour n'en citer qu'un, qui est quand même un petit peu... Ça recoupe un petit peu tout ce qui a été dit. C'est M. Alain Fauconnier, qui est le président du parc, qui était là en tant que président du parc naturel régional des Grands Causses, et qui a dit, je le cite, hein, qu'il était prêt à soutenir l'action du centre dans l'avenir, et prêt à participer aussi à toute table ronde permettant d'en assurer la continuité. Alors ça, c'est bien sûr un engagement fort, et ça dénote, on va dire, une évolution au niveau des esprits, puisqu'avant, c'était tout simplement « non, on ne peut pas », et puis là, ben, on s'aperçoit que même si on n'est pas encore au bout du chemin, on en a fait déjà une bonne partie. Il faut savoir aussi que dans cette mobilisation qu'on sollicite depuis quelque temps, on a beaucoup de maires qui finalement nous contactent en nous disant « mais nous, on aimerait vous aider ». Alors, le choix qu'on a fait, ce sont les communautés de communes. Pourquoi ? Parce que, d'une part, elles ont bien souvent la compétence environnement qui leur a été apportée par ces communes. Et surtout parce que, sur le département de l'Aveyron, il y a 285 communes. C'est énorme. Et on ne peut pas se permettre de les contacter toutes pour essayer d'aller obtenir une aide pour financer un poste et demi. Sinon, ce n'est plus un poste et demi qu'il nous faut, c'est trois ou quatre. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on maintient notre cap et on sollicite toujours les communautés de communes, et en particulier celles qui sont sur le parc naturel régional des Grands Causses.
Voilà, donc au niveau des ressentis pour nous, c'est vrai que bon, il n'y avait pas beaucoup de présidents de communautés de communes, donc aucun, finalement, qui ont répondu présent à l'invitation, sauf que nos invités ont pu découvrir le fonctionnement d'un centre de sauvegarde et son rôle dans le maintien de la biodiversité. Donc, comme l'a cité Jean-Claude, certains ont quand même émis le souhait de nous aider, de nous soutenir dans l'avenir. Voilà.
Donc, suite à cette journée, on a continué notre action auprès des communautés de communes. Et notamment, on a lancé une pétition depuis quelques mois qui est en ligne sur change.org. On vous redonnera l'adresse en fin d'émission. Et qui tourne aussi sur papier. Donc, à ce jour, on a plus de 5000 signatures. Et on pense rendre ces pétitions au conseil communautaire concerné à la prochaine réunion plénière d'ici fin septembre. Donc c'est le moment d'aller signer la pétition. Voilà.
Oui, moi ce que je voudrais faire quand même avant qu'on arrive au bout de cette émission, c'est remercier Hélène et Cassandra qui, je dois le dire, pendant tout l'été, ont été très, très, très présentes sur la structure. Et puis, remercier aussi, bien sûr, tous les bénévoles qui nous soutiennent, qui participent, ou qui envoient des lettres. Je crois que c'est important. Cette démarche, on va la poursuivre. J'espère qu'on arrivera au bout. Et puis, je remercie aussi la presse, d'une manière générale, qui en fait soutient notre action et a toujours à cœur de transmettre nos articles ou les informations qu'on donne.
Du coup, nous, de notre côté, on continue à demander à nos adhérents, nos sympathisants, bénévoles, ainsi qu'à toutes les personnes qui découvrent un animal sauvage ou toute personne qui pense que ce qu'on fait, c'est bien et qui veulent nous soutenir, d'écrire en fait un courrier à leur communauté de communes. Donc, si vous êtes motivé pour faire une lettre à un président de Comcom, vous pouvez nous contacter. On a les adresses, on a des exemples de lettres. Et voilà, on a besoin de votre soutien pour expliquer à ces communautés de communes que si le centre disparaît d'ici quelques années, à chaque fois que quelqu'un trouvera un animal blessé quelque part, il faudra que les communautés de communes qui ont la compétence environnement s'en débrouille, quoi.
Voilà, sachant que c'est quand même un cercle vicieux, puisque comme on le disait tout à l'heure, la détention d'espèces protégées est quand même interdite par la loi. Donc, si jamais vous voulez nous aider, comme ce que disait Hélène tout à l'heure, vous pouvez signer et partager notre pétition. Donc, sur change.org, il vous suffit de taper le titre « Sauver la faune sauvage Sud Massif Central par la création de postes permanents ». Vous devriez tomber sur notre page et voir que, en tout cas, sur la pétition internet, nous sommes à, je crois, ce matin, 4010 signatures. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. On continue. De toute façon, on continue à partager. Vous pouvez également nous suivre et découvrir tout ce que nous faisons sur notre site internet, centresecoursfaunesauvagemio.fr. Nous aider dans notre action chouette mais pas abandonnée sur notre page Lilo. Et évidemment, nous suivre, je dirais pas au jour le jour non plus, mais régulièrement sur notre page Facebook où vous tapez Centre Régional de la Faune Sauvage Cossenard. Merci beaucoup et puis au mois prochain.
Chaque deuxième mardi du mois à 18h,
Nous vous présenterons les activités et la vie de l'association. La plume.
La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage Cossenard.